La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Beaucoup de gens pensent encore que les astronomes professionnels passent leur temps à observer le ciel avec des télescopes près de leur laboratoire de recherche. Par exemple, quand on est astronome à Toulouse, les gens posent souvent la question « Alors, vous faites vos observations au pic du midi ?» Eh bien, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Des astronomes toulousains vont faire des observations au pic du midi, mais ils vont aussi faire des observations un peu partout dans le monde. Et inversement, des astronomes du monde entier peuvent venir faire les observations au pic du midi. Les télescopes d'observation, comme on dit maintenant, sont dédiés. C'est-à-dire qu'ils ont des instruments à l'arrière du télescope pour faire un certain type d'observation. Et les gens font des demandes pour observer dans les observatoires qui les intéressent. Alors, qu'en est-il du pic du midi? Que devient cet observatoire? Comment est-ce qu'il est géré? À quoi sert-il? Eh bien, j'ai avec moi aujourd'hui le directeur scientifique de l'observatoire du pic du midi, Rémi Cabanac. Bonjour Rémi.
Bonjour Sylvie.
Rémi Cabanac a fait une thèse au Québec, à l'Université Laval, sur l'instrumentation en astronomie, et en particulier les télescopes à miroir liquide. Alors avant de continuer à présenter Rémi, je vais lui demander ce que c'est que des miroirs liquides.
Un miroir liquide, c'est très très simple. C'est un récipient dans lequel on verse un liquide et on le fait tourner.
Alors pas n'importe quel liquide, je suppose, et pas n'importe quel récipient. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça plutôt que des miroirs classiques ?
Tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher de fabriquer un grand miroir avec un récipient relativement simple à fabriquer. Le liquide est réfléchissant, bien sûr, hein, donc il forme la surface réfléchissante et on le fait tourner pour lui donner la forme concave de façon optimale.
Eh bien, ça ne doit pas être très évident à utiliser, mais enfin, tu as quand même réussi à travailler avec ce genre de télescope. Et après donc, ta thèse, tu es allé à Paris, à l'Institut d'astrophysique de Paris, où tu as travaillé sur ce qu'on appelle les grandes structures de l'univers. Tu peux nous en dire un tout petit mot ?
Oui, alors depuis la fin des années 80, on a découvert que la distribution de matière, de galaxies, était très inhomogène. C'est ce qu'on a appelé la structure à grande échelle de l'univers. Et donc c'était un domaine à l'époque qui était extrêmement excitant à observer. Et donc on était dans une phase d'observation pure et dure, donc d'acquisition de données, de toute cette structure à grande échelle qu'on venait de découvrir. Donc je suis arrivé à l'Institut d'astrophysique de Paris pour travailler sur ce domaine-là.
Et ensuite, tu es parti au Chili. Alors au Chili, au Mont Paranal, où se trouve le grand télescope qu'on appelle le VLT, Very Large Telescope. Et là, tu es resté 3 ans au Chili.
Oui, les grands télescopes internationaux qui fonctionnent donc en mode service ont besoin d'astronomes pour observer pour d'autres astronomes. Et je suis parti faire ce métier pendant 2 ans. J'ai observé avec ces grands télescopes et j'ai observé les programmes d'autres astronomes qui m'ont demandé de le faire.
Donc tu observais pour d'autres, mais est-ce que tu faisais des observations pour toi aussi ou pas du tout ?
Oui, alors en fait les 2 premières années de ce postdoctorat qui avait 3 ans étaient subdivisées de façon très simple. Les 2 premières années, on était plutôt au service de la communauté, donc on observait pour les autres. Et la 3e année, on observait uniquement pour nous-mêmes sur ces mêmes télescopes et donc on avait 1 an d'observation pour soi tout seul.
Donc 3 ans au Chili et ensuite à Hawaï. Tu as travaillé au télescope franco-canadien d'Hawaï pendant 2 ans ?
Pendant 3 ans. 3 ans, j'étais ce qu'on appelle astronome résident. Donc là, c'est vraiment une carrière internationale que l'on peut faire en tant qu'astronome. Partir à l'étranger et travailler pour des observatoires astronomiques. Alors il y en a un petit peu partout dans le monde. Les grands observatoires sont au Chili, à Hawaï, en Californie ou aux Canaries.
Et ensuite, donc, tu es arrivé chez nous en 2006 pour être d'abord responsable du télescope Bernard-Liot du Pic du Midi. Donc le télescope de Bernard-Liot, tu peux nous expliquer, c'est le télescope dont le miroir a 2 mètres de diamètre.
Oui, alors c'est pour les gens qui connaissent un petit peu la région, quand on passe à Tarbes, on voit le Pic du Midi et c'est la grande tour qui est au sommet du pic, à côté du pylône de fusion.
C'est ça, on voit l'antenne, on voit la coupole du TBL à côté et quand on est bien placé, maintenant, on voit un pylône du téléphérique.
C'est vrai que tout ça s'est développé au cours des années 90-2000.
Donc tu as été responsable du TBL en 2006 et dès 2008, tu es devenu directeur scientifique général de la plateforme du Pic du Midi. Alors la plateforme du Pic du Midi, ça veut dire le télescope Bernard Liot, la partie soleil, donc télescope Bernard Liot, c'est-à-dire la partie nuit, la partie soleil avec ce qu'on appelle la coupole tourelle, et puis aussi l'aérologie. Et l'aérologie est quelque chose d'important, on en parlera tout à l'heure. Peut-être peux-tu nous parler donc un petit peu plus en détail maintenant de ce télescope Bernard Liot. Comment est-ce qu'il fonctionne? Il est dédié maintenant, dédié à quel type d'observation? Tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, le télescope Bernard Liot, c'est donc un grand télescope sur le sol français, c'est le plus grand sur le sol national, mais à l'échelon international, il est tout petit, c'est-à-dire la taille de son miroir primaire de 2 mètres est relativement petite par rapport aux grands télescopes qu'on peut avoir au Chili, à Hawaï ou ailleurs. Et donc, le télescope a été construit à la fin des années 70, début des années 80, et c'était à l'époque un télescope qui servait une grande communauté d'astronomes dans beaucoup de domaines thématiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui observe les étoiles, par exemple, a souvent besoin d'observer qu'un objet à la fois. Quand on observe des galaxies, on a besoin d'avoir un champ beaucoup plus grand et de pouvoir observer beaucoup d'objets à la fois. Et donc, ça demande des systèmes optiques un petit peu différents. Et donc, à la fin des années 90, le télescope Bernard Liot a décidé de se spécialiser dans le domaine de l'analyse de la vie des étoiles, de leur naissance à leur mort, à travers une mesure très spécifique.
Attends, tu dis le télescope, c'est amusant ça. Le télescope a décidé de se spécialiser. En fait, c'est l'équipe, une équipe qui s'occupe du télescope, qui a décidé de spécialiser le télescope dans un certain domaine.
Oui, alors en réalité, un télescope est financé par une agence qui sert une communauté d'astronomes. Et ce sont les chercheurs qui décident ensemble de spécialiser un télescope ou de le dédier à un domaine d'études particulier. Et donc c'est bien la communauté française des astronomes qui s'est dit « Le télescope Bernard Liot devrait nous servir plutôt à observer les étoiles que les galaxies ».
Donc il observe les étoiles et pas n'importe comment, c'est le champ magnétique des étoiles plus spécialement.
Oui, le télescope Bernard Liot a été un des premiers télescopes dans le monde avec le télescope franco-canadien d'Hawaï à pouvoir faire ce type d'observation par l'instrumentation qu'on a accrochée au télescope.
C'est-à-dire qu'il y a actuellement une instrumentation accrochée au télescope Bernard Liot qui est la même, le frère ou la sœur, de l'instrumentation au télescope franco-canadien de Hawaï.
Oui, c'est ça. Ce même instrument a été construit par les astronomes toulousains, dans la même équipe. On a à Toulouse des spécialistes mondiaux dans l'étude des étoiles, à la fois d'un point de vue théorique, modélisation, l'instrumentation, construire des instruments pour les observer, et l'observation de ces étoiles.
Il faut dire qu'il y a une qualité de ciel au Pic du Midi qui est quand même excellente.
Oui, alors c'est quelque chose que l'on ne savait pas au départ, au tout début de la vie du Pic, et on a découvert que la qualité du ciel, sa transparence et surtout sa stabilité était exceptionnelle pour des raisons géomorphologiques qu'on a compris plus tard. Et donc le Pic du Midi reste encore aujourd'hui un très grand site d'observation internationale dans le domaine des étoiles, tout comme ses confrères d'Hawaï.
Et le soleil alors, dis-nous quelques mots sur ce qui est observé au Pic du Midi par rapport au soleil.
Alors, l'histoire de l'observation du soleil au Pic du Midi, c'est une histoire très longue et très ancienne qui remonte aux années 30. Le Pic du Midi a été un site de création d'une nouvelle technique d'observation qu'on appelle la coronographie, qui consiste à réaliser une éclipse artificielle à la surface du soleil. Et c'est donc l'opticien Bernard Liot qui a développé cette technique. Bernard Liot, à qui on a donné le nom du télescope de 2 mètres pour l'honorer. Et donc cet astronome a développé ce coronographe au Pic du Midi, et depuis 1930, on observe le Soleil au Pic du Midi avec cet instrument, à travers des instruments de plus en plus développés, complexes et récents, bien sûr, contemporains. Et aujourd'hui est en préparation un nouveau coronographe qui va observer donc la couronne du Soleil et qui se trouve être, par les hasards de la fabrication, le plus grand coronographe du monde qui sera installé au Pic du Midi à partir de cet automne.
Et là, on observera la couronne solaire.
Alors, on va essayer de mieux comprendre la relation entre la température du Soleil lui-même et la température de la couronne, aussi extraordinaire que ça puisse paraître. Des questions aussi fondamentales que ça ne sont pas encore très bien comprises en physique solaire.
Et avant de parler de la question d'aérologie, est-ce que tu peux nous dire pour le fonctionnement, là on a parlé du TBL, du Soleil, qui font les observations? Je crois qu'il y a des astronomes amateurs, c'est intéressant, qui participent aux observations, dans les deux cas d'ailleurs, pour le TBL, mais surtout pour l'observation de la couronne solaire.
Oui, alors on a segmenté la partie d'observation, de prise de données scientifiques depuis la fin des années 2000 dans tous les observatoires du monde, y compris au Pic du Midi. Avant, les astronomes montaient au sommet, prenaient des observations et repartaient avec leurs données. Et aujourd'hui, on ne fait plus ça du tout comme ça. Aujourd'hui, ce sont les observatoires eux-mêmes, avec leurs équipes techniques et aussi scientifiques, qui observent pour les astronomes qui ont besoin d'avoir ces données. Et donc c'est le cas au TBL, c'est ce qu'on appelle les observations de service. Donc au TBL, on a des équipes à la fois d'observateurs qui sont engagés par l'observatoire lui-même et qui vont faire les observations. C'est un petit peu le travail que je faisais au VLT, au Chili, quand j'étais postdoc là-bas. Et au coronographe, on a aussi un mode de fonctionnement très particulier et là absolument unique en France. On a, je dirais, créé au Pic du Midi la science participative en accueillant une association qui fait toutes les observations scientifiques de ce service d'observation national, dont le seul scientifique professionnel, l'astronome, est directeur ou responsable de ce service d'observation.
Donc ce sont tous des bénévoles.
Ce sont tous des bénévoles et toutes ces personnes s'engagent à monter au Pic du Midi entre 1 et 2 semaines par an pour donner une partie de leur temps à la science et observer le soleil pour la communauté.
Ça, c'est parce que les astronomes professionnels n'auraient pas de financement pour faire des observations de routine. On a besoin des bénévoles, on a besoin des astronomes amateurs pour continuer la recherche.
Alors, de toute façon, l'astronomie s'est toujours appuyée sur une communauté amateur, et en particulier pour l'observation du Soleil, on a besoin d'être sur place et d'observer le Soleil tous les jours. Et ça, effectivement, les astronomes professionnels n'ont pas le temps de le faire. Et ça coûterait extrêmement cher, de payer des astronomes pour observer le Soleil.
Eh bien, on voit qu'il y a beaucoup d'aspects humains en fait dans les observations en astronomie. On va parler de l'aérologie, qui est donc un service qui gère l'atmosphère, la pollution humaine en particulier dans l'atmosphère terrestre, et puis les relations aussi avec les touristes. Je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine. On va avoir du temps pour parler de ça. On parlera de l'aérologie et de l'aspect humain. Merci beaucoup, Rémi. À la semaine prochaine.